Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. 7 novembre 2020. J'espère que cette date restera dans les annales, dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Parce que malgré tout, même si effectivement, au fil du temps, il y a beaucoup d'autres choses qui effectivement occupent le monde, eh bien j'espère quand même que cette date restera connue et que l'on s'en souviendra. Pourquoi? Les raisons m'appartiennent. Et puis, pour nous parler de cette date, de cet événement, un journaliste, sans doute, l'avez-vous entendu et écouté durant ces dernières semaines, je l'espère, au cours de l'élection présidentielle des États-Unis, notamment ce 7 novembre 2020. Les élections, je vous rappelle, ont débuté le 3 novembre de l'année dernière. Pour nous parler donc de Joe Biden, le nouveau président des États-Unis d'Amérique, et bien donc je vous le disais, un journaliste correspondant à Washington pour BFM TV, monsieur Jean-Bernard Cadier. Bonjour Jean-Bernard Cadier.
Bonjour Claudine.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous, pour ces deux ailes, pour votre livre aux éditions de l'Archipel sur Joe Biden. Alors, je le disais, vous êtes correspondant à Washington pour BFM TV. J'ai envie de vous demander, aujourd'hui, après tous ces jours, que ressentez-vous, que garderez-vous de ce 3 et 7 novembre 2020 ?
Écoutez, là, on est début février, fin janvier, début février.
Oui.
C'est vraiment la période où la tension retombe et on regarde, on essaie de réaliser ce qui nous est arrivé, ce qui nous est tombé dessus.
Oui.
Ces événements d'une ampleur sans précédent.
Oui.
L'élection, bien sûr, la contestation de l'élection, les événements du Capitole, l'investiture de Joe Biden. Et avec le recul, effectivement, votre question est intéressante. Le sentiment que le système a marché, malgré tout, et que la seule façon de faire partir Donald Trump, ça n'était pas de l'attaquer dans les journaux, ça n'était pas de l'attaquer à la télévision, ça n'était pas de l'attaquer au Parlement, c'était dans les urnes.
Oui.
Les Américains ont décidé que Donald Trump ne devait plus être leur président, et quoi qu'il ait essayé, c'est ce qui est arrivé, il a été obligé de partir.
Malgré tout, il y a quand même une frange importante de la population américaine qui souhaitait qu'il reste.
Une frange très importante et d'autant plus importante qu'on ne l'entend pas souvent, qu'on ne l'entend pas assez,
oui.
Qu'on ne l'a pas entendu en 2016, les experts, les journalistes,
oui.
Dont je suis, n'ont pas du tout anticipé la victoire de Donald Trump en 2016.
C'est vrai.
Et pendant de nombreuses années, pendant ces 4 années, il y a eu une sorte de malentendu où les journalistes, les experts, encore une fois dont je suis, pensaient que Donald Trump accumulait tellement les excès,
les outrances,
en effet, qu'il n'était pas possible qu'il soit réélu. Or, à quelques poignée de voix près, il a failli être réélu car il a quand même rassemblé 74,2 millions de voix.
Ouais.
Et donc oui, il y a aux États-Unis une frange très importante de la population que l'on entend peu, que l'on entend mal et qui soutient, qui a soutenu et qui visiblement soutient encore aujourd'hui Donald Trump.
Oui. Alors à la fin de votre livre, on va égrener, on ne pourra pas tout dire parce qu'on va laisser au soin aux lecteurs et lectrices de découvrir ça, mais à la fin de votre livre, vous posez cette question, qu'est-ce que l'on retiendra? Est-ce qu'on s'en souviendra de ça? Est-ce qu'on se souvient par exemple du président durant la crise de 1929? C'est vrai que pour les non-avertis, on s'en souvient pas forcément du nom. Mais malgré tout, ça a quand même été un événement. J'ai eu l'impression que le monde a soufflé. À titre personnel, et même les gens autour de moi, on a senti une sorte de respiration. Voilà, c'était l'ère Trump se terminait, on allait pouvoir envisager un petit peu mieux les choses. Le monde allait tourner peut-être un petit peu mieux.
Oui, mais si je pose la question de savoir ce qu'on retiendra de l'année 2020, c'est pas parce que je veux relativiser l'effet Trump, c'est parce que je veux souligner l'effet Covid.
Bien sûr.
Et à quel point les États-Unis sont un pays qui a été brutalement, terriblement touché par le Covid.
Oui.
Et qu'au regard de l'histoire, peut-être parlerons-nous du populisme, peut-être étudierons-nous le populisme des années 20. Peut-être c'est un phénomène qu'on verra. Et en effet, dans ce cadre-là, on parlera de Donald Trump. Je pense quand même, je dois vous avouer que ce livre a été écrit avant les événements Capitole, oui. du 6 janvier.
Oui.
Et je pense que les événements du Capitole du 6 janvier ont un peu changé la nature des choses.
Oui.
Et je ne suis pas sûr que je réécrirai cette phrase de la même façon,
oui.
parce que jusqu'à l'élection proprement dite, tout se passait dans l'ordre. Mais le fait que ce président conteste jusqu'à inciter une insurrection oui.
dans l'attaque du Capitole,
du Parlement américain, oui. le sein des seins de la démocratie américaine,
oui.
ça c'est sans précédent,
oui.
et ça restera peut-être un peu plus dans l'histoire que ce que j'avais anticipé.
Oui, le Capitole marquera l'élection de Joe Biden, de toute façon. Donc les deux seront liés. Les deux seront liés.
Les deux seront liés. Le Capitole marquera le danger encouru par la démocratie américaine que
oui.
l'on croyait insubmersible,
et oui.
Que rien ne pouvait l'atteindre. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il s'en fallait de peu, finalement, pour que les choses basculent. Et cette incroyable erreur de maintien de l'ordre des policiers du Capitole.
Oui, oui.
Alors, ils n'ont pas failli prendre le pouvoir. C'était pas d'ailleurs exactement leur but. Ils n'avaient pas de but prégnant. C'est pour ça que c'est plus une insurrection qu'un coup d'État. Mais on a bien vu que les ordres venaient, enfin, en tout cas, l'incitation venait du président.
Oui.
Et donc, quand un président lui-même incite une foule à mettre en cause les institutions, ça, effectivement, on a changé d'époque. On avait eu 4 ans d'outrance, de mensonges, etc. Mais la période qui a suivi les élections, et singulièrement le 6 janvier, c'est une autre dimension.
Oui.
C'est un président insurrectionnel.
Oui, mais comme vous disiez, le système a tenu, et là, pour le moment, c'est l'essentiel. Alors, Joe Biden, hein, puisque bien sûr, c'est l'objet de cette émission et de votre livre, le 7 novembre à 11h25, il y a une jeune femme qui s'appelle Noémie qui crie « Pop, pop, nous avons gagné ». C'est la petite fille de Joe Biden qui est sur les réseaux sociaux, sur les chaînes, etc. Elle est très branchée. C'est sa petite fille, elle lui annonce que Joe Biden va être le nouveau président des États-Unis d'Amérique et c'est ainsi que commence votre ouvrage.
Oui, et c'est pas un hasard si c'est sa petite fille qui lui annonce la nouvelle, parce que Joe Biden est un family man, comme on dit ici. C'est un homme de famille, c'est un homme qui vit dans sa famille. Il est très proche de ses petits-enfants. Il dit qu'il ne se passe pas une journée sans qu'il ait un contact avec chacun de ses petits-enfants. Alors ça peut être un coup de fil, ça peut être un message, un SMS ou un WhatsApp, mais il a un message quotidien avec chacun de ses petits-enfants. Et effectivement, il était en famille ce samedi, qui suivait le mardi de l'élection, ce samedi matin, où tout le monde attendait, toute sa famille attendait, toute l'Amérique attendait, tout le monde attendait de savoir si oui ou non il allait gagner.
Oui.
Et effectivement, en fin de matinée, les médias américains, parce que c'est comme ça que ça se passe ici, ont déclaré que c'était lui le vainqueur, ce que la plupart des Américains ont accepté, que l'ensemble du monde a accepté, sauf Donald Trump.
Bien sûr. Alors vous nous racontez que sur le mur de la maison, c'est écrit « De cette maison à la Maison Blanche par la grâce de Dieu ». Ça reflète bien le personnage, c'est quelqu'un de très croyant, et puis il est arrivé au bout de 40 ans d'une vie politique mouvementé, riche aussi, puisque faut pas oublier qu'il a été le vice-président de Barack Obama. C'est un homme complet, politiquement averti. On espère beaucoup en lui aussi.
Oui, l'histoire de la maison est intéressante parce que il n'a pas écrit cette phrase sur le mur de la maison où il habite actuellement. Actuellement, il habite une magnifique maison dans la banlieue de Wilmington dans le Delaware.
Oui.
C'est une maison qu'il a payée plus de 2 millions d'euros. Il a gagné beaucoup d'argent en faisant des livres récemment. Jusqu'à présent, c'était un parlementaire qui n'avait pas d'économie, qui était l'un des plus pauvres parlementaires. Maintenant, ça va très bien. Il a une très très belle maison. Il a écrit cette phrase, sur le mur de sa maison natale.
La maison d'enfance.
Infiniment plus modeste.
Oui.
Beaucoup plus modeste. À Scranton, en Pennsylvanie.
T'as fait.
Et ça souligne les origines modestes de ce président-là. Son père a eu des difficultés financières, ses parents étaient de classe moyenne, ils habitaient toute son enfance, ils étaient les 4 garçons plus un oncle dans la même chambre à coucher, des lits superposés. Il a des origines modestes qui sont toujours ancrées dans sa mémoire et qui lui ont permis, j'en suis persuadé, de parler à cette classe ouvrière américaine, ces Américains modestes, dont il était très proche par ses origines, et qui jusqu'à présent faisait confiance aveuglément à Trump, et il en a détourné suffisamment pour être élu.
Et puis aussi, vous le racontiez durant les semaines de novembre, sa vie a été égrenée aussi par tout un tas de malheurs. Il a perdu une petite fille, il a perdu son fils beau il y a quelques années d'un cancer. Tout ça a forgé l'homme aussi. Mais on se rend compte aussi que c'est un homme extrêmement sensible, proche des gens et qui vit les choses avec beaucoup d'émotion et de sensibilité. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que vous semblez faire ressortir du livre, en tout cas.
Personne ne le conteste. Personne, même ses adversaires politiques, ne conteste que Joe Biden est un homme sensible, un homme qui a de l'empathie, qui sait parler aux gens qui souffrent, parce qu'en effet, lui-même a beaucoup souffert.
Oui.
Quand il était tout jeune sénateur, il venait d'être élu, sa femme a eu un accident de la route épouvantable.
Oui.
Sa femme a été tuée dans l'accident de la route avec leur petite fille, qui avait 18 mois. Seuls ces deux garçons ont survécu. Mmh. Et puis en 2015, il a perdu son fils, déjà un adulte, il avait 40 ans, et qui est mort d'un cancer foudroyant, un cancer du cerveau.
Oui.
Et ce sont des épreuves dont Joe Biden a réussi à se relever, mais qui l'ont marqué pour toujours. Et lorsqu'il parle de la pandémie, lorsqu'il parle aux Américains qui ont perdu un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, un frère, il leur dit « Je sais ce que c'est que de perdre un proche, je sais ce que c'est que la souffrance.
Mm-hmm. »
Et ça, personne ne conteste qu'il y a quelque chose de profondément authentique et de naturel chez Joe Biden. Alors, le défaut de sa qualité, c'est qu'il est tellement naturel que, d'abord, souvent, il parle trop,
oui.
Il parle trop longuement, il parle trop longtemps, il ne sait pas faire court, comme on dit. Et l'autre inconvénient aussi, c'est que comme il est naturel, parfois, mais il ne se contrôle pas. Les choses viennent comme elles sont, se disent comme elles sont. Et c'est pour ça qu'il avait échoué à plusieurs reprises pour sa candidature à la Maison-Blanche.
Tout à fait.
Cette candidature-là de 2020 était la troisième.
C'est la
il
troisième.
Avait échoué deux fois, précisément parce que c'est un gaffeur. C'est un homme qui fait des gaffes, qui dit des choses qu'il ne devrait pas dire, qui parle trop vite, qui est trop spontané, trop naturel.
Ouais.
On peut l'aimer pour ça. Jusqu'à présent, ça l'avait desservi et la presse lui en avait voulu et ses adversaires avaient utilisé cette arme contre lui.
Oui.
Mais dans cette période très particulière du Covid, où les Américains ont besoin d'être rassurés, eh bien cette capacité d'empathie a été un atout majeur pour lui.
Tout à fait. Alors, il est né en 1942, hein, le 20 novembre 1942. Et alors, vous racontez cela, que le jour de sa naissance, il y a eu un papier dans le journal de l'endroit où il est né, de sa ville natale. Alors, les Américains ont gagné une victoire contre les Japonais. Et il y a une petite phrase, « Monsieur et Madame Biden ont donné naissance à un fils. » J'ai trouvé cette anecdote assez drôle et en même temps... comme une forme de signe, voyez-vous.
Oui, c'est le journal local.
Ouais.
C'est le journal local. C'est un homme modeste, une famille modeste, mais quand même suffisamment installée pour être connu dans sa banlieue de Scranton, Pennsylvanie.
Uh-huh.
Et en effet, c'est un homme qui est né pendant la guerre.
Ouais.
Et évidemment, il n'y en a plus beaucoup des hommes politiques qui sont nés pendant la guerre. Il n'a pas connu la guerre, lui, parce qu'il était...
Il était petit.
Mais ça souligne aussi son âge.
Bien sûr.
Qu'il avait 78 ans quand il a été élu.
Ouais.
Et il pourrait avoir 82 ans à la fin de son mandat.
Ouais.
Jamais les États-Unis n'ont eu un président aussi âgé.
C'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est jeune. Quand vous regardez à peu près la moyenne d'âge des gens, aujourd'hui, finalement, 78 ans, ça ne paraît pas plus vieux que ça. C'est un certain âge, mais ça n'est pas très vieux aujourd'hui.
Ah ben, moi qui viens de passer la soixantaine, je suis tout à fait d'accord avec vous. On est très très jeune, on est très très jeune dans ces périodes.
On est très très jeune, oui. Alors, il y a un autre chapitre aussi que j'ai trouvé très émouvant, puisqu'on parlait de son fils beau qui est décédé en 2015. Le chapitre s'intitule « La promesse ». Ils sont ensemble et son fils lui promet de dire « Mais papa, vas-y, il faut que tu y ailles, est-ce que ça ira ?»« Oui, beau, je te promets, ça ira pour moi », alors qu'il sait que son fils, bien c'est, il n'y en a plus pour très longtemps. Cette promesse, est-ce que ça l'a aidé aussi à aller? Parce que rien n'était joué hein, quand il a fait ses premiers discours, rien n'était dit. En plus, sa campagne, ça a été quand même quelque chose d'assez extraordinaire hein, dans un sous-sol. Alors le sous-sol aux États-Unis, c'est quelque chose, c'est une pièce vraiment à part entière, c'est une vraie pièce, pas comme nous forcément en France. Mais tout ça aussi l'a mené aussi et lui a donné cette force et ce courage, malgré les circonstances.
Oui, absolument, absolument. Il avait décidé que son fils, c'est pas son aîné, son cadet,
Oui.
lui succéderait. Lui succéderait en politique, deviendrait sénateur comme lui, et pourquoi pas deviendrait un jour président des États-Unis.
Oui.
Ce fils qui lui ressemblait en tout, qui avait toutes ses qualités, mais qui n'avait pas ses défauts, car lui, Beau Biden, qui était le ministre de la Justice de l'État du Delaware,
Oui.
ne faisait pas de gaffe. Donc vraiment, c'était un jeune homme qui avait un avenir tout à fait radieux jusqu'à ce qu'il soit donc pris et fauché par la maladie. Et à partir de là, Joe Biden s'est senti tenu de continuer l'œuvre qu'il avait entamée, puisque son fils n'arrivait pas, n'était pas là pour devenir président à son tour. Il s'est dit, ben, il faut que j'y aille. D'autant que sur son lit de mort, pratiquement, ce fils lui a dit, ne laisse pas tomber, ne laisse pas tomber. Alors, il n'est pas sûr qu'il lui ait dit explicitement,
Oui.
promets-moi, papa, de te présenter à la présidentielle. Mais l'idée générale était là. Et d'ailleurs, la date est importante. 2015, c'est
2015,
la fin du deuxième mandat de Barack Obama.
oui.
Et la question se posait à ce moment-là pour
Oui.
Biden de se présenter pour succéder directement
Moi,
à
à
Barack Obama.
Obama,
Et il y a pensé.
oui.
Il y a pensé. Et il était pratiquement prêt à se présenter en 2016 pour succéder à Barack Obama. Mais lequel Barack Obama a, ce jour-là, choisi Hillary Clinton? Il a pensé, Obama, que Hillary Clinton était plus proche intellectuellement de lui, qu'elle était plus sûre, encore une fois, moins gaffeuse que ne pouvait l'être Biden. Et il a choisi, cette année-là, Obama, de soutenir Hillary Clinton. Et du coup, Biden s'est effacé. Quand on vous repense à cette séquence avec le recul, on peut quand même se demander, et si Obama avait choisi Biden?
Est-ce
Et
que
si
Biden
Biden,
aurait
comme il l'a
gagné contre
prouvé,
Trump?
avait été...
Eh oui.
Nous n'aurions pas eu de Donald Trump. Nous n'aurions pas eu de Donald Trump. Et ça, c'est une question que Barack Obama, à mon avis, doit se poser
Oui.
matin, midi et soir. Est-ce que son choix de 2015-2016 n'a pas été celui qui a permis à Trump d'arriver?
Oui, parce que c'est vrai que ces 4 ans de Trump, hein, bon, c'est vrai que en tant que journaliste, on doit faire preuve de discrétion, mais honnêtement, c'est vrai que les États-Unis et le monde payent cher ces 4 années de Donald Trump et surtout les États-Unis avec notamment cette pandémie que Trump n'a absolument pas gérée, en tout cas. Voilà. Alors.
Oui, alors, écoutez, soyons quand même, vous allez dire que je suis trop journaliste, mais le monde n'a pas payé si cher que ça, quand même, les 4 ans de Trump. C'était pénible au plan nerveux de voir toutes ces
Ça, c'est
escalades,
vrai.
ces
Oui.
outrances, ces mensonges, etc.
C'est vrai.
Mais il n'a pas entamé de nouvelles guerres,
C'est vrai.
il n'y a pas eu de crise majeure, il y a eu la pandémie. Oui, il y a eu la pandémie. Mais il faut aussi. Alors, il a mal géré la pandémie parce qu'il a sous-estimé le risque au départ. D'abord, quel est le dirigeant de grande démocratie qui a bien géré la pandémie? Ça, malheureusement, celui-là n'a pas encore émergé. Ils
Non.
ont tous commis des erreurs. En plus, la pandémie aux États-Unis, c'est très difficile à gérer dans un pays qui est décentralisé, où le président des États-Unis ne peut pas. Biden, tout puissant qu'il est, il ne peut pas rendre le masque obligatoire sur le territoire américain parce qu'il n'est que président de la fédération. Et
Eh oui.
dans tous les États, ce sont les gouverneurs qui les
Eh
nomment. Et
oui.
donc, le président n'a pas tant de pouvoir que ça. Et enfin, on dit toujours les États-Unis ont eu un bilan désastreux sur la pandémie. Les États-Unis se situent quelque part, c'est moins grave que la Belgique, c'est moins grave que le Royaume-Uni, c'est moins grave que l'Italie, c'est moins grave que l'Espagne, c'est à peine plus grave que la France
Oui.
si on rapporte le nombre d'habitants.
C'est vrai.
C'est un pays immense, c'est pour ça qu'on a le plus grand nombre de victimes ici.
Oui, c'est vrai. Alors, un autre chapitre, on parlait d'Obama, pour rappeler, donc, il a été, Joe Biden a été le vice-président de Barack Obama. Un moment aussi que j'ai trouvé assez fort et peut-être assez rare en politique. Donc, son fils Beau est malade et Joe Biden a des problèmes d'argent. Il va avoir du mal à assumer les frais d'hospitalisation. Et donc, il en parle à Obama, alors, je crois, d'un déjeuner. Et il lui dit, Obama lui dit, mais comment tu vas faire? Je vais prendre une deuxième hypothèque sur la maison. Et Obama lui dit, non, Joe, promets-moi que tu ne feras pas ça. Et il lui dit, je vais te prêter l'argent, tu me le rendras quand tu pourras. J'ai trouvé que c'était un beau geste en politique et au-delà de ça, c'était une belle amitié.
c'est assez unique, en effet. Je crois même qu'on peut dire que c'est absolument unique, parce que à ce niveau-là de la vie politique, ces hommes-là, qui sont des grands bestiaux politiques, regardent toujours derrière leur épaule pour savoir s'il ne va pas y avoir un poignard planté dans leur dos, même par ceux qu'ils considèrent leurs plus proches.
Ouais.
Eh bien non, ces deux hommes-là, ce jour-là, dans ce déjeuner, dans la petite salle à manger, dans la West Wing, à côté du bureau ovale, étaient deux hommes de famille, deux hommes de principe, et l'un avait besoin d'argent, l'autre lui a dit « je te prêterai l'argent
».
Et il s'est levé, il a fait le tour de la table, il a mis ses mains sur les épaules de Joe Biden, les deux le confirment, les deux le racontent, et ça, personne ne le conteste. Il s'est passé quelque chose de très très fort entre ces deux hommes. Le jeune, noir. Brillantissime, atypique, venu à la fois son père kényan, né à Hawaï, super intellectuel, et le blanc, pas du tout intellectuel, beaucoup plus âgé, beaucoup plus roué. Ces deux hommes que rien n'ont aucun copain commun normalement, se sont rassemblés et ont été plus proches que jamais dans l'histoire un président et un vice-président n'ont été.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a eu d'autres moments, d'autres grands moments que les lecteurs découvriront aussi tout au long de votre livre. Joe Biden aussi, c'est, je dirais, est-ce que les gens vont se rendre compte de son âge? Est-ce que ça les inquiète? Est-ce que les démocrates n'ont pas pu trouver quelqu'un d'autre? Est-ce que ça peut être inquiétant, embêtant aussi pour sa gouvernance? Au Sénat, il a pas la majorité, je crois que c'est 50-50. Est-ce que ça va être compliqué pour les réformes futures?
Alors ça va être compliqué. De toute façon, ça va être compliqué à cause de la situation.
Oui.
Mais commençons par son âge. Il faut reconnaître que ça a été un handicap pendant toute la campagne. Pendant toute la campagne, d'abord, c'est pas un homme qui est très bon en débat.
Oui.
C'est pas un homme qui est
bon.
C'est pas un orateur. Il a eu la chance parce qu'il n'y avait plus de meeting à cause du Covid. Mais il a commis des gaffes. Quand il marche, on voit qu'il a un petit peu de peine à avancer.
Oui.
Ce n'est pas tellement qu'il est vieux, Joe Biden, c'est qu'il fait vieux. Mmh. Et pendant toute sa campagne, ça a été un problème. Mmh. Je dois reconnaître que depuis qu'il est à la Maison-Blanche, je ne sais pas si ça lui a donné une cure de jouvence, mais le problème se pose beaucoup moins.
Oui.
Ses discours sont parfaitement maîtrisés, il ne bafouille plus. Mmh. Pour l'instant, il n'y a pas eu de gaffe, même pas de gaffe majeure, mais même pas de gaffe mineure.
Mmh.
Il fait le job, il est parfaitement au fait et suffisamment en forme pour entamer sa présidence. Est-ce que ce sera une présidence facile? Non. Le pays est à genoux.
Oui.
On n'a toujours pas les vaccins en nombre suffisant.
Oui.
C'est comme en France. On se demande où ils sont. Les gens trouvent qu'il n'y en a pas assez, ne comprennent pas pourquoi les vaccins ne sont pas là. Il y a toujours plus de morts. La crise économique est terrible. Il n'y a jamais eu autant de chômeurs.
Oui.
Ça va être très difficile à relever. Oui. Et en effet, vous l'avez dit, il a une situation politique qui est difficile. C'est qu'il n'a pas de majorité nette au Sénat.
Oui.
Or, un président américain a quelque part moins de pouvoir qu'un président français. Parce que le président américain dépend du Sénat, dépend du Congrès, qui a, lui, les cordons de la bourse. Et toutes ces grandes réformes pour redresser le pays, ça sera beaucoup plus difficile pour lui de les faire. Il faut qu'il compte sur son expérience, car justement, lui a été sénateur pendant plus de 30 ans. La négociation, au jour le jour, pour un texte, pour un paragraphe, pour un budget, pour une ligne budgétaire, sa seule chance pour les États-Unis, c'est que son expérience lui permette de trouver des accords avec le Sénat pour s'en sortir.
Oui. Alors, il y a des femmes qui sont très importantes autour de lui. J'ai envie de dire qu'il y en a trois. Il y a bien sûr sa femme Jill, il y a sa sœur, et puis il y a la vice-présidente, la première femme noire vice-présidente, Kamala Harris, qui a un charisme, qui incarne aussi toute une frange de la population. Après un président noir, les Américains sont quand même capables d'élire un président noir, et puis il y a une vice-présidente noire. C'est quand même un symbole, cette Amérique quand même, c'est quand même quelque chose, Jean-Bernard Cadier.
Oui, effectivement. Joe Biden l'a choisi d'ailleurs parce qu'elle était noire. Alors c'est un peu curieux parce que nous, Français, quand on la voit à la télévision, on n'est pas tout à fait persuadés qu'elle soit noire.
Oui.
Mais elle l'est. Ici, aux États-Unis, elle est considérée comme noire parce que sa mère était d'origine indienne et son père était d'origine jamaïcaine. Et parce qu'elle a été élevée, ça aussi c'est difficile à comprendre, elle était dans les écoles noires, les universités noires, elle se considère comme noire.
Ouais.
Et effectivement, quelques mois après des émeutes raciales les pires que les États-Unis aient connues depuis 50 ans, c'est vrai que c'est assez exceptionnel que non seulement ce soit la première femme, mais que ce soit la première personne de couleur qui soit dans le ticket, comme on dit ici, qui arrive à la Maison Blanche.
En tout cas,
au rôle de vice-président, ouais. Après Obama. Alors, elle n'aime pas, elle, la comparaison avec Obama, parce qu'elle dit, moi, je suis moi-même, moi, je suis une femme, vous ne pouvez pas me comparer avec un homme, c'est pas pareil.
Mais
elle a beaucoup, beaucoup de points communs avec Barack Obama, un charisme considérable, une petite incertitude sur ce qu'elle veut exactement politiquement, elle est très habile, comme Obama à l'époque, on ne savait pas si elle était très à gauche ou très centriste, mais elle a un charisme et une énergie qui a permis au ticket Biden-Harris d'être élu finalement.
Tout à fait. Et puis un autre symbole, son mari est juif, blanc et juif.
Oui, et c'est une première encore une fois.
Oui.
C'est la première fois que dans un couple à la Maison Blanche, que ce soit à la présidence ou à la vice-présidence, il y a un juif, ce qui remplit d'aise la communauté juive américaine.
Bah bien sûr.
Notons aussi que Joe Biden lui est catholique et qu'ici c'est exceptionnel d'avoir un président catholique.
Oui.
Ce n'est que la deuxième fois dans l'histoire. Le premier c'était John Kennedy.
John Kennedy.
Parce qu'à l'époque on se disait il ne faut pas élire un président catholique parce qu'il va obéir au pape. mais bon, ces années-là sont révolues.
Oui.
Et donc on a effectivement un président catholique. Une vice-présidente qui, elle, est protestante, mais mariée à un juif, et elle-même d'origine à la fois afro-américaine, comme on dit ici, puisque son père était noir, mais aussi asiatique-américaine, puisque sa mère était indienne. Ça fait beaucoup, beaucoup de minorités qui se sentent représentées à la Maison Blanche.
Et pour conclure, on va terminer avec une femme, Jill Biden, qui a énormément d'importance, bien sûr, puisque c'est son épouse, mais elle est là, au coin du bois, elle le surveille, elle le protège aussi énormément.
Il n'y aurait pas de Joe Biden s'il n'y avait pas de Jill Biden.
Oui.
Je crois qu'on rarement une épouse de président, une épouse de candidat n'a joué un rôle et ne jouera un rôle aussi important. C'est une personne, c'est une personnalité extraordinaire, Jill Biden, donc c'est la deuxième épouse. Elle a parfaitement accepté élever les deux fils du premier mariage. Ils ont eu une petite fille ensemble.
Oui.
C'est une femme qui a fait des études sur le tard. C'est une femme qui a couru un marathon à 47 ans.
Oui.
C'est une femme qui a passé un doctorat en sciences de l'éducation à 55 ans. C'est une femme qui a décidé de continuer à travailler quand elle était la femme du vice-président et qu'elle continuera
à travailler
quand elle est la femme du président.
Mmh.
Et je pense qu'on n'a pas fini de parler du rôle que Jill Biden a à la Maison Blanche. Et c'est presque une assurance pour les Américains et pour le reste du monde.
Mmh.
On n'est pas toujours sûr que Joe Biden ne fera pas de gaffe. Il ne commettra pas d'erreur, mais tant qu'elle aura l'œil sur lui, on peut être tranquille.
Oui, en tout cas, les gaffes ne peuvent peut-être pas être... ça ne peut pas être pire que celle de Donald Trump, en tout cas.
Ça n'aura pas la même ampleur,
on peut en être sûr. En tout cas, votre livre est fort intéressant, Jean-Bernard Cadier, fort instructif, Joe Biden, aux éditions de l'Archipel. Ça a été un vrai bonheur de vous recevoir, de parler avec vous de cette Amérique que personnellement j'aime tant. J'ai la chance de la connaître par New York. On dit que New York, c'est pas l'Amérique. Je connais Chicago et mon prochain voyage, quand le monde sera ouvert, eh bien pourquoi pas Washington. En tout cas, j'aime beaucoup cette Amérique. Et puis, comme dit Joe Biden, et vous le dites à la fin de votre livre, l'Amérique se construit. Moi, j'admire ce pays fait de pionniers qui ont tout fait, tout construit, et on a l'impression que tout est possible encore aujourd'hui.
Et toujours optimiste, et on a besoin d'optimisme aujourd'hui.
On en a vraiment besoin. Merci Jean-Bernard Cadier. Vous avez d'autres projets d'écriture sur l'Amérique, entre autres ?
Non, je n'ai pas de projet, mais je venais de vous parler de Jill Biden, et je me dis, tiens, je ferais bien peut-être un jour un portrait de Madame la First Lady.
Eh ben voilà, écoutez, la First Lady, puis ensuite Kamala Harris aussi.
Pourquoi pas.
En tout cas, je vous retrouverai toujours. Sachez que vous êtes un invité permanent de ce micro, Jean-Bernard Cadier. Merci infiniment.
Merci.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Quel temps il fait aujourd'hui à Washington ?
Il fait un temps glacial et un bleu d'azur. Très, très bon, très, très fort.
Ça fait 18 ans que vous y êtes, c'est ça ?
Ça fait 18 ans au total aux États-Unis. Oui.
D'accord. Eh bien, merci encore. Bonne journée, parce que pour vous, c'est encore le début de journée pour vous. Et j'espère à une prochaine fois. Joe Biden aux éditions de l'Archipel.
Merci.
Merci Jean-Bernard Cadier. Merci. Au revoir.
Au revoir.